La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis à nouveau aujourd'hui avec Olivier Mock, qui est ancien directeur général adjoint de Météo France, polytechnicien, ingénieur général des ponts, eaux et forêts, et qui a aussi travaillé dans le cadre du programme climatologique de l'Organisation météorologique mondiale aux Nations Unies. Nous avons eu une première émission où Olivier nous a parlé de l'évolution de la météo, des techniques de prévision depuis un siècle et même un petit peu plus. Il nous a expliqué ce qui se passait maintenant grâce à l'informatique et les recueils de données de toutes sortes. Il nous a parlé aussi du fait que ces données sont disparates, elles viennent du monde entier et c'est très complexe à mettre en forme. Donc je crois qu'on va reparler maintenant, si tu veux bien, Olivier, nous reprendre ce sujet, de savoir comment les données internationales sont obtenues, comment elles sont transportées jusqu'à Toulouse, qui est le centre général, en tout cas pour la France. Tu nous as dit que ces données arrivaient en une heure, depuis l'endroit où elles sont recueillies jusqu'à Toulouse. Donc tout ça semble assez extraordinaire. Est-ce que tu veux revenir sur ce sujet pour qu'on comprenne bien maintenant comment la météo fonctionne actuellement à notre époque ?
La météo est une science des données, finalement. On a besoin de données sur l'ensemble du globe, je le rappelle, hein, pour une raison bien simple, hein, c'est que je le redis, là, comme je le disais la semaine dernière, le temps à Toulouse dans quelques jours dépend de ce qui se passe actuellement à l'autre bout du globe, au Chili et en Chine. Donc on a besoin de toutes ces données. Et on a besoin de quantité de données, le plus de données possible, sérieuses, vérifiées, comparables, homogénéisées, etc. Donc c'est pas tellement simple parce qu'il faut faire fonctionner un système dans lequel il y a des pays extrêmement riches, il y a des pays beaucoup plus pauvres, il y a des satellites, il y a des radars, il y a des avions, il y a des stations au sol, il y a des gens qui mesurent, etc. Et il faut concentrer tout ça. Et donc tout ça, comme je l'ai dit, arrive à Toulouse, par exemple, en moins d'une heure. Je dis bien du monde entier, y compris...
Même des pays défavorisés et tout
non,
ça.
Non seulement des pays défavorisés, mais aussi du milieu des océans et d'altitude au milieu des océans et du pôle Nord et de la forêt tropicale, etc. Donc on a besoin de tout ça. Et ces données... À l'origine, donc, comme je crois l'avoir déjà dit la semaine dernière, hein, l'idée initiale, c'est d'après Newton, on prend tout ce qui se passe à midi, heure du temps universel, et puis on a des observations pour ce moment-là, et puis on calcule la suite. On calcule la suite parce qu'on connaît les forces en présence, etc. Mais si on fait ça, on perd énormément de données. On perd l'image satellitaire qui arrive à 15h23. On la gaspille, on n'utilise pas. De la même façon, on perd le fait que tel avion envoie telle donnée à 12h12, etc.
On n'utilise pas à cause du décalage en temps, de l'arrivée.
C'est un problème scientifique majeur d'être capable d'assimiler, comme nous disons dans les domaines, des données qui sont à la fois disparates, qui sont asynchrones, etc. Mmh. Et donc, la percée scientifique a eu lieu vers l'année 2000, hein, qui consistait à dire, voilà, maintenant, on a une méthode qui permettra de tenir compte, de ne pas gaspiller des observations qui sont disparates, qui ne sont pas des mesures de pression, de pluie, de température, etc., et qui arrivent à des moments absolument asynchrones. Et moi, j'étais très frappé par ça, parce que 10 ans auparavant, on avait dit, si jamais on a tel moyen de calcul, et si jamais ces moyens de calcul sont disponibles et sont abordables, voilà quelle méthode on pourrait utiliser pour les assimiler. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, les données satellitaires ont commencé à être majoritaires, si j'ose dire, vers l'année 2000. Actuellement, je crois que 90% des données utilisées dans les modèles sont d'origine satellitaire. Donc ça, c'est important. Et ça change tout, parce qu'il y a beaucoup d'océans dans l'hémisphère sud, et c'est à peu près vers l'année 2000 que les prévisions météo dans l'hémisphère sud ont acquis les mêmes valeurs que les prévisions dans l'hémisphère nord, où il y avait beaucoup plus de continents et de gens et de stations d'observation, etc. Donc, avec des calculateurs haute performance, donc parmi c'est des très grandes puissances de calcul, on fait des modèles. Et par exemple, en France, on a deux modèles. On a un modèle qui couvre l'ensemble du globe, qui s'appelle Arpège, qui a une maille de 4 km, c'est-à-dire une précision de 4 km sur la métropole, mais qui fait seulement une vingtaine de kilomètres à l'autre bout du globe. Hein. Et puis, on a inséré dans ce modèle global, on a un modèle plus restreint qui s'appelle Arome, qui lui est à l'échelle de 1,3 km ou 1,4 km. Et tous ces modèles tournent plusieurs fois par jour, etc. Et donc, on a beaucoup progressé. La vitesse de progression, en gros, c'est un jour de prévision tous les 8 ou 9 ans. Ça veut dire que les prévisions pour dans 5 jours ont la même valeur que celles pour 3 jours il y a une vingtaine d'années. Hein. Mmh. Donc ça progresse très vite. Alors, peut-être qu'il faut... Donc ça, c'est ce qu'on appelle les modèles déterministes, oui.
Et ils donnent un indice de confiance, hein, quand on...
Première chose qu'on fait...
Ça veut dire quoi exactement?
Oui. La première chose qu'on fait quand on fait tourner un modèle, c'est de calculer l'erreur qu'on a faite par rapport... Bon, c'est indispensable pour des tas de raisons. Hein. D'abord, c'est ce qu'on fait dans le processus d'assimilation de données. Hein. L'assimilation de données, ça consiste à prendre une fenêtre temporelle, à regarder les données qui arrivent à ce moment-là et de comparer avec les prévisions qu'on a faites pour ce moment-là et donc à corriger la trajectoire du modèle. Donc, bon. Alors ensuite, il n'y a pas de réponse toute faite parce que ça dépend des paramètres. Il y a des paramètres qui sont plus faciles à prévoir que d'autres. Hein. Mais par exemple, pour la vigilance, qui est la mesure de la, du danger, des risques météo qui sont produits par Météo France pour le lendemain, hein, et qui sont contrôlés, vérifiés par la sécurité civile. Hein. Actuellement, j'ai compris que des départements dans lesquels il y a eu des phénomènes graves ont été... annoncés avec 98% de préavis. Hein. Donc ça, c'est des prévisions à 24 heures. Hein. Alors peut-être que ça, j'ai parlé jusqu'à présent des modèles déterministes. Hein. Mmh. Alors il y a une autre catégorie de modèles qui est très importante dans le monde météorologique, c'est ce qu'on appelle la prévision d'ensemble. La prévision du temps ici, je l'ai dit, dépend de ce qui se passe partout dans le monde, y compris, par exemple, à Toronto, je pense, au hasard. Mmh. À Toronto, on observe 12 degrés et puis on fait le calcul. Mais qu'est-ce qui serait passé si, au lieu d'avoir 12 degrés à Toronto, on avait eu 12,1 degrés ? Ça aurait changé les prévisions sur la Bretagne, par exemple, ou sur l'Allemagne du Nord. Mmh. Et donc, on peut faire tourner des modèles une centaine de fois. C'est ce qu'on fait, hein. C'est ce qu'on faisait en tout cas, en permanence, quotidiennement, pour voir les différences que ça donne. Si tu fais tourner ton modèle une centaine de fois, si ça ne change rien sur les prévisions sur la Bretagne, tu en déduis que les prévisions sur la Bretagne sont robustes, et que si c'est pas ce qui se passe, et donc tu as un coefficient de probabilité, de confiance plus grand que, par exemple, sur l'Allemagne, ça change tout. Hein. Ça veut aussi dire que pour affiner les prévisions sur l'Allemagne du Nord, où ça bouge beaucoup, il faudrait être plus précis sur les malheurs à Toronto. Donc, tu peux envoyer un avion à Toronto pour affiner les prévisions, etc., les observations à Toronto. Donc ça, c'est très important parce que ça permet de donner un sens à la probabilité. Si je dis que... C'est une notion qui est relativement mal comprise. Hein. Si je dis que demain, il y a une chance sur 50% de chance de pluie, ça ne veut pas dire que le météorologiste tire au hasard et qu'il pense que ça sera l'un ou l'autre. Ça ne veut pas dire que la moitié de la population sera couverte par la pluie. Ça ne veut pas dire que la moitié du terrain sera couverte par la pluie. Ça ne veut pas dire qu'il va parier la moitié de son salaire. Ça veut dire qu'il a, en un sens très précis, que si on change un tout petit peu les données, dans un cas sur deux, ça veut dire, il pleuvra et dans l'autre, non. Ça veut dire aussi qu'on est capable de contrôler ce qu'on a dit sur 50% de chances de pluie. Dans tous les cas où on a dit 50% de pluie, il a plu une fois sur deux. Ou si on a dit 30% de chances de pluie, il a plu trois fois sur 10.
Donc ça, c'est très important, ça, oui, de comprendre ça, je veux dire, parce que c'est vrai que les gens ne comprennent pas ça du tout. Moi, la première, en fait, là, je comprends ce que tu dis et je n'avais pas tout à fait cette idée-là.
Alors, on pourra y venir, parce que, je veux dire, c'est pour ça que je dis que le travail des météos, il est triple d'une certaine façon. Il y a une partie de physique, de compréhension, de recherche, etc. Il y a une partie opérationnelle dont je suis en train de parler, hein, quel modèle, comment il tourne, etc. Puis il y a une troisième partie qui est la diffusion, comme tu l'as dit tout à l'heure, la diffusion d'une information sous une forme compréhensible, une information adéquate au client ou à l'utilisateur adéquat, etc. Le marin et l'aviateur et le spécialiste de la SNCF n'ont pas besoin des mêmes observations. Et il faut que dans tous les cas, cette observation soit comprise. Tu auras compris aussi que à partir du moment où on fait des prévisions sur l'ensemble du globe, ça change tout. Ça change tout D'autant que les prévisions météo, les prévisions météo sont de plus en plus précis, donc ils sont de plus en plus précieux, ils ont acquis une valeur marchande. Beaucoup de gens...
Oui.
Et ça veut dire aussi que puisque Météo France, par exemple, fait des prévisions pour le Chili, au passage, Météo France peut vendre des prévisions au Chili, avec le risque que les Chiliens disent « Dans ce cas-là, on ne vous envoie plus vos données, on ne va pas vous donner la matière première, faut que vous puissiez nous vendre un produit élaboré. »
Oui.
D'accord. Et donc, c'est tout le travail de nouveau de l'Organisation météorologique mondiale d'assurer un échange de données et des conditions qui permettent de faire survivre le système.
Mais les pays, enfin, personne a priori n'a intérêt à refuser de donner ces informations. Parce que ça peut retomber sur eux après. Parce que s'ils ne fournissent pas leurs données, ils peuvent avoir d'autres gens qui ne fournissent pas non plus les données et tout
tombe à l'eau. Oui, mais les pays ne sont pas tout à fait symétriques dans cette affaire-là, parce qu'il y en a qui ont des gros moyens de calcul et qui peuvent faire des prévisions sur l'ensemble du globe, et d'autres ne les ont pas.
Donc, justement, un pays défavorisé, par exemple, comment est-ce qu'il recueille les données?
La météo est indispensable dans tous les pays du monde. Il y a des services météo, il y a au moins un service météo, disons, dans chacun des pays du monde. Il peut y en avoir plusieurs. Il y a des pays où il y a un service météo pour les militaires, un service météo national, plus des services météo privés, etc. Mais il y en a toujours au moins un, parce qu'il y a les problèmes de sécurité civile et les problèmes de défense et les problèmes d'environnement.
Donc, si je comprends bien, les prévisions météo sont devenues un produit économique aussi, qui peut être vendu d'un pays à l'autre. Ça me semble important, ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc, peut-être tu peux nous en reparler la semaine prochaine.
Oui, entendu, oui.
Donc,
plaisir.
À la semaine prochaine.
Avec plaisir.